case presque habituelle pour Antoine Roussel, chronique hockey. Salut Antoine.
Salut Marc, comment vas-tu?
Ça va pas mal, toi?
Ça va pas pire. On a perdu une grosse game contre Winnipeg hier soir. Ça fait mal en prolongation. On est revenu, je pense que je suis resté deux minutes à game. On a marqué un gros but pour égaliser. Mais c'est une game qu'on se devait de gagner, puis on l'a échappé.
Mais vous aviez quand même des moments intéressants. Ça a bien été contre Calgary, les Canucks?
Quand même, oui. On a gagné notre série de quatre matchs contre eux autres. C'est sûr que ça a bien été. Puis c'est sûr qu'on aurait aimé ça, que ça continue contre Winnipeg, qui est un adversaire direct pour l'accès aux séries. Puis on a perdu notre premier match, alors qu'on a joué vraiment une bonne game. Puis hier, on a dominé la première période, on a été exécrable en deuxième période, puis ça leur a donné de la vie, puis ils sont venus dans le match, puis en troisième, ils ont pris le devant. Puis après ça, on a forcé la prolongation, mais on a perdu pareil. Là, fait que quand tu regardes le standing, c'est vraiment pas là où on voudrait être en ce moment.
Antoine, je vais revenir sur ce qui s'est passé contre les Flames. Puis honnêtement, je savais pas que ça dérangeait les joueurs. Puis t'en as parlé. C'est le gardien de but et ton ex-coéquipier Jacob Markstrom, qui est le portier des Flames. Écoute, on imagine la situation de match. Là. Il y a un joueur des Canucks qui s'en va en échapper et lui sort de son filet pour essayer d'arponner la rondelle, de le contrer. Mais t'as pas aimé ça. Puis honnêtement, Antoine, je savais pas que c'était dangereux, un geste comme ça. Je pensais plus que ça mettait le gardien à risque de se faire marquer un but. Qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans?
Ben, c'est les deux. Je trouve que c'est un geste vraiment dangereux. Tu sais, moi, je me suis blessé sur un jeu pas mal plus anodin que ça. Tu sais, au genou, je me suis fait le ligament croisé sur mon genou. Puis c'était pas mal plus anodin. Fait que, tu sais, quand tu vas à 30-40 km/h à fond la caisse, puis le gardien, il arrive de l'autre bord assez vite aussi, ben, ça fait des collisions assez impressionnantes, tu sais. Puis, premièrement, ça met le goaler en danger. Fait que c'est rare quand même que tu vois ça. Parce que, tu sais, le joueur, t'as le droit de te protéger aussi, là, mais dans ce cas-là, Tanner Pearson, il l'a vu à la dernière seconde, puis il a eu le temps un peu de se protéger, mais c'était dangereux. Dans le fond, c'est ça que j'aime pas, c'est que ça peut avoir des répercussions à long terme, et c'est vraiment le genre de geste que tu veux pas voir, parce que, comme je disais, ça blesse, puis même ton gardien, tu veux pas le voir faire ça, parce que suffit que le gars se protège, sort le coude pour justement te protéger, puis ton gardien numéro un, Mark Stone, c'est un gardien numéro un qui est excessivement bon, puis s'il se blesse pendant une commotion cérébrale, puis il est out pendant un mois, ben, ça fait mal là, dans une saison écourtée.
Puis, impression que j'ai, Antoine, puis bien les amateurs de hockey aussi, on a l'impression que le gardien de but, quand il sort de sa zone, il est intouchable. Comme par exemple, tu as donné l'exemple de Tanner Pearson. Si Pearson se serait comme miré pour se protéger, mais il l'aurait mis en échec vraiment, puis que le gardien de but, excuse l'expression, hors-vol en bon français, est-ce que il y aurait une pénalité sûrement?
Ben, c'est difficile. Ça dépend. C'était Tanner Pearson. J'étais bien content que ce soit pas moi, je te dirais. Parce que ça aurait pas été trop long que, tu sais, il a voulu frapper le goaler, mais tu sais, en même temps, moi, je trouve qu'il n'y avait pas d'affaire à sortir. Puis la preuve, il avait voulu faire le même jeu contre notre capitaine quelques minutes plus tard. Puis Boarvat, il l'a juste déjoué, puis il a marqué dans un filet ouvert. Puis Markstrom a eu l'air fou là, à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'ils sont un peu intouchables, les goalies. Puis c'est normal, tu sais. C'est une position précaire qui est puis vraiment importante. Qu'il faut pas, ça peut pas être un self-service. Donc, c'est difficile de voir son gardien sortir puis de prendre des risques, se mettre en danger comme ça, donc c'est plus difficile. D'habitude, ouais, on les voit sortir vraiment en arrière de leur but pour arrêter l'échec avant, puis pour aider leur défenseur à sortir la puck de leur zone, mais c'est rare que tu les vois avancer au milieu de la glace.
Ouais. Autre chose, Antoine, qu'on a vu en fin de semaine, qu'on a vu brièvement, en tout cas, le match à Lake Tahoe, les deux matchs d'or. Premièrement, est-ce que tu étais jaloux des joueurs, des équipes qui ont participé à ce match-là?
Absolument. Écoute, c'est magnifique. Les images qu'ils ont montrées, là, puis je trouve que dans les circonstances, avec la pandémie, la Ligue nationale a fait un travail exceptionnel, là, de présenter ça dans un lieu atypique. Tu sais, le nombre de personnes que j'ai rencontrées après ou dans mon équipe qui disent « Ah, on a tellement hâte d'aller visiter ça, le lac Tahoe. » Tu sais, on dirait que ça a promu cette région-là, tu sais, c'était incroyable. C'est dommage. Je me suis dit que ça aurait été magnifique de voir une game de la Ligue nationale, tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, près du fjord, avoir ces images-là, tu sais, pour que le monde découvre ça. J'aurais aimé ça aussi que ça tourne vers là, mais écoute, peut-être un jour, on désespère pas.
Non, absolument, absolument. Puis, est-ce que, d'après toi, la LNH a un œil au beurre noir parce qu'on n'a pas réussi à finir le match, autrement dit, d'un seul trait, tu sais, c'est présenté à NBC. Comment t'interprètes ça, toi?
Ben, c'est ça que c'est difficile, là, tu sais, des fois, que tout fonctionne parfait. La température était magnifique, il faisait beau. Mais, tu sais, parce qu'il faisait trop beau, ben, la glace, à fond un petit peu. Tu sais, le monde qui ont des patinoires extérieures en ce moment, au Saguenay, ils savent que, tu sais, c'est dur de garder une glace vraiment parfaite. Puis, tu sais, la Ligue nationale, ils ont un peu goûté, mais je trouve que c'est pas si grave. Ça fait partie des aléas de la nature, mais, j'ai un respect pour les joueurs, tu sais, faut quand même rester concentré. Les gars, ils étaient prêts à jouer à une certaine heure. Finalement, ça a été remis à plus tard. Tu sais, c'est pas facile de rester concentré pareil, là, toute la journée, sachant que toute ta routine d'avant-match, tu l'avais déjà fait. Donc, tu sais, chapeau aux joueurs qui ont réussi à avoir un bon match. Puis, tu sais, David Pastrnak, tout qui a un but encore. Puis, Brad Marchand, tu sais, c'est des gars qui profitent de l'opportunité pour encore relever leur niveau de jeu d'un cran. Puis j'ai trouvé ça ben cool.
Autre point, Antoine. On entend souvent parler qu'un coach au hockey perd sa chambre. Là, le coach a perdu sa chambre. On sent qu'il va être congédié. Puis des fois, ça arrive. Souvent, ça arrive. Des fois, non. Les joueurs, est-ce que vous le sentez quand ça commence à être dangereux pour le coach?
Ben, c'est sûr que quand tu colles des défaites consécutives, ben c'est évident que ça amène son lot de questionnements puis de la part dans l'organisation et tout ça. Mais moi, je l'ai juste vécu rien qu'une fois. Vois-tu, là, on colle des défaites, mais je le sais, puis les gars, ils ont encore la confiance du coach, puis on sait que il veut ce qui est bon pour nous autres. Je pense pas que notre coach en ce moment il est dans cette situation-là. Par contre, quand j'ai eu Ken Hitchcock à Dallas, puis on était dans la même situation, puis que c'était difficile, c'était fatigant là à l'aréna. Il y avait une ambiance noire. C'était vraiment pas un milieu de travail vraiment sain, je te dirais. Là. Puis Ken, à ce moment-là, ben, il faisait rien pour apaiser les tensions qu'il y avait au sein de l'équipe. Fait que c'est à ce moment-là que le coach se met un petit peu en danger. Puis après ça, la boule de neige a grossi tranquillement. Puis après ça, ben il n'y a plus d'options. T'sais. Nous, à la fin de la saison, de cette saison-là, quand j'étais avec les Stars, ben je peux te dire que tous les gars, ils ne voulaient plus dans l'équipe. Ils étaient respectueux envers les joueurs. C'était tannant. Là. Fait que fallait du changement d'air. Puis écoute, ça a profité aux Stars. Et, quelques années plus tard, ils sont allés en finale de la Coupe Stanley.
Ouais. Quand tu parles de les joueurs voulaient du changement, ça arrive. Ça arrive-tu, ça, que les joueurs décident de plus jouer pour le coach puis se traînent les pieds sur la glace?
Non, je pense pas, Marc. Je pense que, tu sais, je te dirais, là, si tu te traînes les pieds sur la glace, ben, c'est juste toi que tu mets dans la barre. Peut-être les meilleurs joueurs de l'équipe peuvent avoir ce statut-là où c'est pas si grave que ça à long terme, mais il reste que à court terme, tu te mets dans l'embarras, tu joues aussi pour toi, pour être bon, puis pour ta carrière. Ouais. Tu ne veux pas abandonner parce que tu n'aimes plus le coach. Il faut que tu vives avec là, dans n'importe quel milieu de travail. Tu n'aimes pas tout le monde avec qui tu travailles, mais tu trouves un moyen pour que ça fonctionne pour avoir du succès. Puis c'est la même attitude qu'il faut avoir dans une équipe de hockey. Tu ne peux pas vraiment abandonner sur un coach, mais c'est sûr que des fois, c'est pas ton préféré, mais il faut que tu trouves un moyen de réussir.
Qu'est-ce qu'un coach peut faire pour ne pas être comme exemple, Antoine, on n'aura pas de nom nécessairement, mais des exemples. Qu'est-ce qu'un coach peut faire pour déplaire à ses joueurs, à part, évidemment, j'imagine, couper le temps de glace? Là?
Ben, c'est sûr, couper le temps de glace, t'sais, pas être fair. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile avec un coach. Tu sais, c'est... je sais pas, un gars qui fait 50 turnovers, il traitera pas de la même façon à une autre personne ou il prend un bouquet émissaire, des affaires de même. Puis ça se sent au niveau d'une équipe, tu sais, quand t'as toujours un gars qui, tu sais, on dirait qu'il passe en dessous du boss, puis il y en a qui, tu sais, je vais pas dire que c'est naturel, mais ça arrive, ces genres de situations-là. Puis c'est là qu'au sein d'une équipe, ben, la grogne commence à arriver parce que tout ce pouvoir, tout ce C, tu sais, est-ce que le coach a réagi de la bonne façon? Tu sais, nous autres, les joueurs, des fois, on analyse aussi. Est-ce que le coach, il a callé son timeout au bon moment, à la fin de la game? Est-ce que, mettons, ton meilleur joueur, il arrive en retard? à un meeting, est-ce qu'il est traité de la même façon qu'un joueur de le quatrième ou troisième trio qui arrive en retard à un meeting aussi? Fait que, tu sais, ce genre de situation-là, c'est toujours analysé, puis tu veux que le coach, ça soit le plus fair possible, puis des fois, ben, ça ne l'est pas. Puis c'est là qu'il commence à avoir de l'eau dans le gaz, puis les gars, ben voyons, tu sais, ils traitent pas tout le monde de la même manière, c'est pas correct, tu sais, puis on s'entend. Des fois, il y en a qui ont l'élastique un peu plus long, mais il y a des affaires que l'élastique, il doit être pareil. Puis, tu sais, mettons, ton meilleur joueur, il arrive en retard, il est pas respectueux, il s'entraîne pas, puis il se fait traiter d'une autre façon, ben là, la grogne commence à arriver.
Antoine, en terminant, Sidney Crosby a atteint le plateau des 1000 matchs, bon, avec les Pingouins, mais surtout dans la LNH, et pendant le réchauffement, les joueurs des Pingouins ont fait quelque chose d'assez spécial. Non seulement on avait tous le numéro 87, mais on a imité sa routine d'avant-match et ça t'a fait penser à quelque chose, là.
Ben écoute, c'est connu, là, tu sais, dans la Ligue nationale, tout se fait, là, tu sais, c'est un petit milieu, là, fait que tu changes d'équipe, tout le monde veut savoir, ah, il est comment ce gars-là, il est comment ce gars-là, puis nous, Pearson, il a déjà joué avec Sid, puis il nous racontait ses routines un peu, puis ça fait partie de sa routine de relâcher son patin dans la game ou de prendre une certaine route pour aller à l'aréna, on dirait, mais mentalement, ça doit être usant à Sidney Crosby des fois, parce que il y a tellement de routines puis de petites choses qui fait que faut que ça soit fait pour qu'il connaisse un bon match, c'est compliqué. Mais j'en parle en connaissance de cause parce que moi aussi là, j'ai des petits, des petites routines comme ça, puis des petites superstitions. Puis pour ma part, c'est vraiment d'être assis dans l'autobus à gauche. Puis, écoute, à un moment donné, on joue à Dallas avec les Canucks. Et puis, j'étais blessé à ce moment-là, puis je récupérais. Fait que quand t'es blessé, ben, généralement, tu restes sur la glace le plus longtemps possible. Et puis après ça, tu débarques de la glace. Et nous, on était allés pratiquer à une aréna qui était pas l'aréna de game, donc une aréna de pratique. Il fallait prendre l'autobus de l'aréna de game jusqu'à l'aréna de pratique. Fait que tu sais bien que je me mets à gauche, comme d'habitude, comme je t'ai dit. Puis... sur le retour, j'arrive à la dernière minute, puis j'embarque dans l'autobus. Puis comme les gars, ils savaient que j'aime ça me mettre à gauche de l'autobus, toutes les bancs à gauche étaient pris. Fait que j'arrive dans l'autobus, je me lève la tête à droite. Il n'y a pas un chat. Tous les gars sont deux par deux dans le banc. Fait que là, il n'y a plus de place. Fait que là, tu sais, là, je fais comme si ça ne me dérangeait pas. Tu sais, est bonne. Fait que là, je monte dans l'autobus. Fait que là, les gars, c'est bien qu'ils rient, tu sais. Puis j'arrive au fond, puis là, je me dis, ah, il y a deux belles petites places là, qui m'attendent au fond. Puis comme je te disais, on était à Dallas à ce moment-là. Puis la famille Erickson, eux, ils habitaient cette année-là à Dallas. Fait que j'arrive au bout, là, je suis prêt à m'asseoir. Puis là, il y avait les enfants de Louis Erickson qui étaient dans les deux derniers bancs. Fait que là, j'ai pas pu m'asseoir à gauche. Et là, les gars, ils riaient, puis on en parle encore parce que c'était un bon coup, puis c'était marrant.
Mais le retour, c'est pas trop mal passé à droite. T'as réussi à te rendre en un seul morceau à l'aréna.
Alors, en un seul morceau, ben, j'ai dit à une recrue de se déplacer si ça le dérangeait pas, puis ça s'est bien passé.
Mais t'es encore comme ça aujourd'hui?
Des petites affaires. Écoute, des petites affaires, oui. Toujours à gauche. Ailier gauche, relâche à gauche dans l'autobus. Que veux-tu? C'est des affaires qui restent même depuis junior. Donc, des petits détails comme ça.
Ouais, c'est excellent, ça. Puis, écoute, Antoine, on remet ça la semaine prochaine. Puis, on s'est parlé un peu. Avant chaque chronique, on se parle. On dit on va faire ça à peu près, ça comme ça. T'ajoutes ton grain de sel souvent, puis tout. Mais on a parlé de médias sociaux tantôt. Puis, je veux qu'on en parle la semaine prochaine parce qu'il y a des choses intéressantes que tu me dis. Puis, je veux qu'on amène ça la semaine prochaine.
Ça marche, Marc.
Excellent. Merci beaucoup, Antoine.
Bye. Bonne semaine.